Aujourd'hui, nous allons parler de optimistique versus pessimistique à l'occasion de la mise en scène de Oscar Gomez Mata au théâtre de Saint-Gervais. En préambule, c'est plutôt une pièce de théâtre ou une réunion ou une performance. Oscar Gomez,
bonjour.
Bonjour. C'est une pièce de théâtre, c'est une performance, c'est une réunion.
Et oui, on pourrait parler aussi de happening, du fait que le public participe et est concerné aussi dans la pièce. Moi, pendant le spectacle, je parle d'expérience. Je dis que vous faites toujours partie de l'expérience optimistique versus pessimistique.
Il faut dire que les spectateurs, au moment où ils arrivent, ont une expérience, ou plutôt une surprise, puisqu'ils découvrent la salle dans un état assez particulier.
Assez particulier, et ils sont pas à une place assez conventionnelle par rapport à d'autres spectacles de théâtre ou d'autres pièces de théâtre.
Et puis sans en dévoiler trop, disons qu'ils doivent gagner leur place.
C'est ça, ils doivent travailler.
Vous aviez fait un constat au départ, vu ce qu'on a vu et surtout vu à quoi on est arrivé. Nous estimons que les pouvoirs politiques et économiques ont réussi l'abrutissement général des individus de notre espèce. Il y a encore une place à la réflexion, puisque les individus ne sont pas aussi abrutis, puisqu'ils viennent vous voir.
Oui, ouais. Et nous, on continue à faire des spectacles. Je veux dire qu'on les fait justement dans le sens où... Je pense que le fait de faire une pièce peut-être sur ça, c'est déjà un espoir, hein. Parce que ça donne la possibilité de réfléchir. Mais bon, je crois que c'est un constat sur ce qu'on vit, hein. De toute façon, je crois que la vie, c'est quelque chose de magnifique et que ça vaut le coup de se lever tous les jours de la vivre. Je pense que notre civilisation occidentale arrive à certaines limites et des fois nous renvoie une image de nous-mêmes qui est pas très, ouais, qui pousse pas trop à l'espoir et qui peut nous démoraliser beaucoup.
C'est dans cette mesure que vous travaillez sur la représentation de l'échec.
Tout à fait. Bon, ça c'est un travail aussi, disons, formel depuis un certain temps, depuis des spectacles dans la compagnie, le fait de fragiliser l'image de soi-même, de fragiliser ou travailler sur la fragilité de la forme théâtrale et des contenus, donc sur l'accident et sur l'échec, donc comme possibilité peut-être de se voir autrement. C'est que si on s'accepte dans ce qu'il y a de moins performant dans ce qu'on fait, c'est une manière de se montrer d'une manière honnête et sincère. Et je crois que c'est important aujourd'hui d'être sincère, en tout cas de lutter contre le mensonge et l'hypocrisie. Et donc en théâtre, peut-être contre l'artifice théâtral.
Et tout d'abord, avec cet artifice, vous commencez à essayer de déstabiliser le spectateur en prétendant que le problème, si problème il y a, le problème du spectateur, c'est le confort.
Le problème, pas du spectateur seulement, le problème de notre société en général, c'est le confort, ouais. Je pense que là, il y a un gros problème. On vit dans des pays riches, pas seulement en Suisse, en Europe, en général, dans les pays occidentaux de la communauté européenne, peut-être pas dans tous les pays, mais je crois qu'on peut dire que c'est des pays riches et que le confort anéantit peut-être une certaine capacité de réaction de notre pensée, de nos actes. Donc, et je le dis aussi dans la pièce, nous on pense que le théâtre ou l'art en général peut être un exercice pour la vie. On propose au début de la pièce, effectivement, un exercice très simple et très ludique, je crois, parce que les gens, effectivement, doivent chercher leur niveau ou évaluer leur niveau de confort en fonction de la quantité de travail qu'ils sont disposés à fournir. Se mettre d'accord ou travailler.
Et comment vous avez perçu la réception du public? Vous le trouvez moutonnier, justement? Est-ce qu'il suit fidèlement vos
ordres?
En
général, ou à ce moment? À ce moment précis, au moment du travail.
Au moment du travail.
Au moment du travail. Bon, c'est vrai qu'on joue dans une salle de théâtre, donc c'est difficile d'entrer en concurrence contre une disposition classique, je veux dire à l'italienne, en plateau et en gradin. Ça dépend des jours. Par exemple, hier, les gens, bon, de toute façon, ils travaillent et ça discute pendant que ça travaille et ils se mettent d'accord et des fois, ils font un travail très rangé. C'est-à-dire qu'ils forment des chaînes de travail et pour arriver effectivement au niveau de confort assez, on va dire, conventionnel, parce que il dégage carrément le théâtre. Et d'autres fois, non, comme hier. Hier, c'était différent. Donc, il y avait des groupes différents dans la salle.
Donc, selon les jours, il y a des groupes plus timides, des assistants.
Et l'occupation de l'espace est différente. Donc, ce qui va définir le déroulement de la pièce après.
Est-ce que c'est vous qui variez la façon dont vous dirigez, ou est-ce que c'est
non,
simplement...
Non, c'est les spectateurs. Bon, vous avez vu la pièce. Vous savez qu'au moment où les gens décident de leur place, nous, on n'est pas dans la salle. Et c'est conscient. Je veux dire, on pourrait rester dans la salle où il pourrait avoir la présence d'un comédien sans rien faire presque, qui pourrait définir ou prédéfinir les mouvements du public, mais nous on a décidé qu'on laissait vraiment au public le choix de se placer comment et dans quel temps ils veulent le faire, voilà. Bon, et que nous on s'adapte.
Ils ont plus que le choix de se placer, puisque vous avez également mis des légumes à disposition pour qu'ils puissent les jeter sur les comédiens.
Ça, c'est un autre exercice, pour effectivement... pouvoir se manifester tout simplement. Je crois qu'ils peuvent se manifester. De toute façon, il y a deux jours où les gens ils parlent aussi, ils nous parlent. Nous, on parle de toute façon tout le temps au public. Hein, mais ça, c'est pas une nouveauté. Nous, on fait dans la compagnie à Lacran un théâtre très direct. Donc, on raconte directement au public. Donc, voilà, effectivement, les gens, ils parlent deux fois. Et il y a effectivement un moment où ils sont à notre exercice avec des légumes. Ils peuvent s'exprimer par rapport à ce qu'ils voient au travers des légumes. Ouais. ils font pas de la cuisine.
Et ils sont aussi invités à s'exprimer et à poser des questions.
Aussi, ouais. Oui, il y a deux jours, je crois, il y a des gens, il y a un moment où il y a une comédienne qui dit alors des questions, et il y a des gens qui répondent, ouais.
Donc, il y a une bonne interactivité avec le public.
Je pense que oui. Disons que ce que le public nous dit à la sortie de la pièce, c'est que les gens, ils se relâchent beaucoup, donc ils parlent, ils vont chercher ou s'ouvrent des bouteilles de champagne, ils se déplacent au milieu de la pièce parce que ce qu'on nous on leur propose aussi, et surtout ils se sentent très relâchés même si les comédiens sont entre le public et ça disons c'est voulu de notre part que les gens donc nous on se montre si on va dire comme on est. Donc c'est un jeu ambigu entre ce qu'on est et ce qu'on représente, ou comment on se présente. Mais on aimerait aussi que les gens se sentent un peu comme chez eux, pour que justement ils puissent percevoir et recevoir la pièce sans tension, sans contrainte et sans préjugé. Voilà, donc que ça soit une vraie réflexion, peut-être à nu, peut-être naïf de ce qu'il voit, et individuel aussi.
Tiens, vous voulez qu'il arrive à une véritable distanciation?
Oui, certainement, oui, voilà, donc parce que certainement, il y a une volonté de que les gens fassent des choix des pensées, des choix de goût, de ce qu'ils s'aiment, des choix émotionnels. Donc effectivement, ouais, qui se distancent par rapport à ce qu'ils voient, ouais.
un petit peu, disons, c'est pour ça que vous avez repris les techniques de Brecht avec la présentation de pancartes, des, également l'acteur qui s'adresse au public.
Tout à fait, ouais, c'est... Disons, c'était pas forcément en pensant à Brecht, mais c'est vrai que je crois que c'est une pièce très didactique si on reprend Brecht. Hein. On raconte ce qu'on fait, on raconte ce qu'on va faire, ce que les gens vont voir, tout en sachant que ce qu'on raconte, ça sert à pas ce qu'ils vont voir. Je veux dire, chacun verra une chose différente, de toute façon, ou verra les choses de manière différente. Mais effectivement, je crois que autant dans les écriteaux, autant dans le comique aussi, hein, il faut pas parce qu'il y a il y a notamment une partie qui est composée de deux pièces comiques et je crois qu'il y a vraiment une volonté ludique et comique tout au long de la pièce. Donc aussi une manière effectivement de se distancier de l'émotion en fait et peut-être d'un système action-réaction si souvent courant dans notre société.
Et en même temps de présenter toujours un aspect optimiste et un aspect pessimiste, oui. D'où le titre.
Oui, tout à fait. Ouais. Je crois que, bon, en tout cas, nous, on a travaillé pendant tout le processus de travail sur cette option, c'est-à-dire de se poser un problème et essayer vraiment de le voir d'un côté optimiste et d'un côté pessimiste. Des fois, c'est impossible parce que ça se mélange. Et des fois, tout simplement, le fait de se dire on va voir ça d'un côté un peu plus noir, ça nous donne une autre profondeur. Ou le fait de dire ajoutons une couche optimiste ou de l'espoir à ça, ça nous fait d'ajouter quelque chose de plus léger.
Claire Gomez, vous avez parlé de notre aptitude, enfin plutôt de notre propension à suivre le courant, en citant « nous appuyons n'importe quoi, pourvu que cela ne crée pas de problème, nous renonçons au conflit et à toutes sortes de pensées critiques, nous renonçons à résister, nous renonçons à être moralistes et à bénéficier de la complaisance des nôtres. Et pourquoi faisons-nous cela ?»
Parce que nous appartenons à la génération équidistante, c'est-à-dire à la même distance de tous les points de vue. Et oui, voilà, ça c'est le discours d'entrée de la pièce. Donc c'était une sorte de manifeste qui faisait un peu de propos, de premiers motifs pour nous de travail. C'est appliqué effectivement au contenu en élément de distance, c'est-à-dire de dire que nous suivons le courant. Ça nous met à penser, bon, qu'est-ce que c'est suivre le courant aujourd'hui? C'est énormément des choses, et c'est effectivement nous mettre en tant que personnes qui se mettent devant en public et qui parlent de choses, peut-être dans un rôle non moraliste ou pas moraliste, et surtout ça nous menait à défendre des causes qui étaient peut-être pas les nôtres, donc à être aussi différents. Mais aussi, on s'est rendu compte tout de suite, et c'est ça qui était drôle, que c'était une entreprise vouée à l'échec, hein, de prétendre faire ça, de renoncer au conflit, de vraiment ne pas créer des problèmes. Parce que rien qu'en se posant comme ça, on crée des problèmes. Parce que comme on accepte tout et qu'on les montre tout simplement, en public, ça crée des problèmes. Donc voilà une belle entreprise optimistique, pessimistique. Mais on a, disons, c'est le fil conducteur un peu de notre pièce en tant qu'attitude face au public et face au contenu proposé.
Vous mettez aussi en exergue l'attitude peu courageuse de tout le monde dans la mesure où le plus important, c'est d'abord, vous l'avez aussi physiquement démontré, qu'il fallait sauver les meubles. Oui, c'est-à-dire que même avant de prendre un parti politique, admettons, pour une dans une pièce de théâtre, il faut d'abord sauver les meubles, c'est-à-dire sauver les subventions, et ensuite pouvoir s'exprimer en faisant attention.
Ce qui fait la plupart du monde, non ?
Ah, comme les médias qui s'auto-censurent pour éviter des coupures de publicité.
Ouais, et je pense qu'effectivement, il y a une pression aussi de certains pouvoirs pour que les artistes, je parle parce que c'est mon domaine, s'auto-censurent, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme il n'y a pas des censures directes, mais il y a une sorte de pression sociale ou des fois des pressions politiques, comme on a vu ici en Suisse. Donc ça fait que les autres, sur le cas de Thomas Hirschhorn, les autres artistes, finalement, ils se disent, bah tiens, peut-être on va pas aller trop loin, donc on commence d'une manière même inconsciente à s'y auto-censurer. Alors nous, dans la pièce, on suit les courants, et à un moment, on sauve le meuble, et on s'est auto-censure très consciemment.
Ce qui est la version pessimiste.
Oui, c'est une version pessimiste dans laquelle les gens rient beaucoup.
Mais quelle est la version optimiste de ça, par rapport au meuble?
Par rapport au meuble. Je ne vais pas dévoiler la fin, mais je crois qu'il y a tout un jeu, effectivement, avec le meuble et les personnes. Et à la fin, effectivement, tout c'est... Disons, il faut dire que optimistique versus pessimistique est une pièce sur les meubles et sur les personnes, comme je l'ai dit aussi au début de la pièce, donc de comment on traite les personnes et comment on traite le meuble, comment on meuble notre vie d'activité, de succès, de choses peut-être qui nous cèdent à remplir, disons, l'angoisse de notre solitude, qui est un des thèmes aussi de la pièce. Et donc, le meuble, qu'est-ce qui reste de meuble? Quelle est la version optimiste de meuble? Je crois que c'est à la fin de la pièce, mais il faut venir le voir, parce que c'est...
Donc, c'est en même temps conçu comme une expérience thérapeutique pour le spectateur.
Je crois, ouais. Je crois que même si... Si la fin joue plus avec l'impression qu'avec la distanciation, je crois que c'est optimiste. Ouais.
Et comment avez-vous réussi à allier le côté...
Optimiste et jubilatoire, pardon. Je voulais dire, excusez-moi.
Ce côté, oui, jubilatoire, mais en même temps avec la difficulté ou la dureté du propos... tout en voulant le garder d'une certaine manière en même temps drôle.
Ouais. Je crois que nous, les gens de notre équipe, de notre compagnie, on aime beaucoup rire. Et on tient que notre travail, ça soit une partie de plaisir, parce qu'il y a déjà pas mal de difficultés dans notre travail pour le faire, pour continuer à le faire d'une manière stable et sur le temps. Donc on tient vraiment à que même si des fois c'est dur, que ça soit un plaisir et que comme on se met en plus en public, que ça soit un plaisir de le faire et qu'on aime beaucoup rire. Donc cette donnée, elle est déjà à la base et au départ de notre travail. Et donc après, si on aborde un sujet qui n'est pas forcément à rire, je crois que cette manière de faire et cette légèreté, même si c'est des propos qui sont pas forcément rigolos, va être là pressante. Et que moi, quand à chaque fois je sors jouer, et je crois que les autres aussi, on aimerait passer un bon moment avec les gens. Et je crois que ça, les gens, ils le reçoivent.
Enfin, à voir la réaction des gens, il semble que vous y soyez arrivé, puisque les gens se détendent, les gens agissent beaucoup.
Oui, c'est... Je crois que, ouais, ils se sentent vraiment comme chez eux. Disons que c'est comme si ça serait une fête chez quelqu'un, comme si vous ouvrez la porte de votre appartement et vous avez invité des gens et vous leur racontez... la dernière innovation ou c'est les changements que vous avez fait dans votre appartement, la musique que vous écoutez, vos dernières inquiétudes, un article que vous avez lu dans le journal le jour même, qui vous inquiète ou que vous le partagez. Ça sera un peu ça, mais je crois qu'on arrive pas mal. Ouais.
Donc, dès le départ, en arrivant, en provoquant ou en incitant divers exercices qui permettent au public de se relaxer, vous pensez que le message passe beaucoup mieux?
Ah, je crois, ouais. Ben surtout que les gens, il y a dans la pièce vraiment une gérance du temps, on va dire, du temps théâtral, parce que même si c'est très proche de la performance, c'est quand même du théâtre ce qu'on fait, et même si les gens ont l'impression qu'on improvise tout le temps, c'est très réglé ce qu'on fait. Disons qu'il y a une gérance du temps théâtral, donc une dilatation à des moments, une sorte de temps suspens qui est fait pour laisser de la place au spectateur, et donc à la perception et à la pensée, c'est-à-dire que les gens puissent vraiment recréer ce qu'ils voient au même moment où ils le voient, qu'ils puissent penser à autre chose qui leur appartienne, et en même temps qu'ils voient ce que nous on fait.
Qu'il y ait une sorte d'identification.
Mais je parlerais plus de distanciation que d'identification, et même pas de distanciation, mais d'appropriation de la pièce. C'est-à-dire que nous, on propose quelque chose, mais on le fait d'une manière où on travaille sur des temps différents, donc qui fait que le spectateur, je crois, réinterprète tout de suite parce qu'il a le temps de le faire et parce qu'il peut trouver sa place par rapport à ce qu'il voit et écoute.
Et qu'il prenne conscience que l'homme a pris un mauvais tournant, que ça ne peut pas finir bien, mais qu'il peut quand même en rire.
Je crois, ouais, ça de toute façon, c'est tout à fait possible. On devrait le faire plus souvent, disons, de prendre cette distance pour pas, parce que sinon on peut tomber tout de suite dans un sérieux qui nous empêche de penser justement et de voir les choses d'une manière plus large. Comme je disais avant, d'entrer dans un système dialectique d'action-réaction. Qui conduit à ce qu'on voit un peu dans le monde. Je sais pas, quelqu'un ne me plaît pas, je lui casse la tête. Voilà, un pays qui, je l'envahis, je déclare une guerre.
Et vous soulignez en même temps par rapport à ces guerres l'indifférence générale.
Oui, je sais pas quel jour vous êtes venu, mais il y a des jours, par exemple, par rapport à ce qu'on voit, où les gens, ils peuvent participer, ils participent pas, alors que ce qu'on voit, c'est des fois pathétique et triste, même si ça nous fait rire. Et il y a des jours où les gens, dans la même situation, prennent parti et participent. Et bon, moi, je sais pas quel jour vous êtes venu. Un jour, j'ai dit au public, vous voyez, hier, dans la même situation, le public d'hier.
C'est ce que vous avez dit lundi.
Voilà, mais c'était pas une blague. Je le dis parce que c'était vrai et que je trouvais que le public du lundi, ou quand vous êtes venu, était très en distance, alors que ce qui s'est passé, c'était un peu dur et qu'ils prenaient pas parti vraiment, disons qu'ils restaient très confortablement installés à voir, alors qu'ils auraient pu faire quelque chose. On va pas dire que ce que, mais dans cette situation, et que les gens qui sont venus les jours avant avaient agi dans la même situation et ils avaient réagi dans la même situation, ils avaient fait quelque chose.
Ouais. Oscar Gomez-Matin, c'est un sujet particulièrement difficile que vous avez réussi à traiter sous la forme du divertissement. Je parle de la guerre, l'indifférence, le terrorisme d'État, l'argent, l'adhésion à un type de sexualité, ce sont tous les sujets qui nous préoccupent actuellement.
Dont on ne veut pas parler souvent parce qu'ils nous prennent la tête deux fois. Ouais.
Alors vous avez réussi à le mettre en scène sans prendre la tête, si on peut dire.
Je sais pas, je crois que deux fois on parle dans la pièce de ces sujets directement, et des fois c'est évident qu'on parle de ça sans le nommer. Voilà, tout simplement. Et de toute façon, je sais pas, comme je disais, moi j'aime beaucoup rire, mais en même temps, je peux pas me soustraire à ce qui se passe autour de moi. Et ça, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, pourquoi pas ramener ça au théâtre? Et je crois que le fait de se divertir, on va dire, de rire, de d'avoir une sensation légère, hein, comme ces musiques qu'on écoutait, hein, qui font pas partie de la pièce, donc avoir une sensation légère n'empêche pas qu'on puisse avoir une réflexion, que cette réflexion nous mène à un état vraiment agréable, je veux dire, de prendre conscience des choses, d'une manière différente. Je crois que ça peut être vraiment une expérience très heureuse.
Mais ces musiques, elles ne font pas partie de la pièce, mais elles vous ont accompagné tout au long de la création de cette pièce.
Oui. Donc c'est un chanteur brésilien, Vinicius, Cantoria, et puis Larita Mitsuko, que j'écoute de temps en temps, que j'aime beaucoup, et c'est des musiques très légères, très belles et très légères et très apaisantes. Même, vous voyez, si les sujets traités ou dans lesquels j'ai baigné ces 2-3 derniers mois n'étaient pas forcément des sujets très gais.
Vous avez expliqué qu'à Berne, les gens ont beaucoup ri de la scène intitulée « Allez tous vous faire foutre
». À Genève aussi, ils rient, oui.
Mais vous avez spécifié Berne parce que le public était différent.
Parce qu'on a joué dans ce festival Est-Ouest qui essaye de rapprocher la culture alémanique de ce pays, la culture romande, et que moi je suis pas d'origine suisse, je suis suisse en ce moment, c'est pas mon pays d'origine, et j'ai toujours entendu que c'était des gens différents, qu'il y a vraiment une différence, la Rostini, Graben, tout ça, cette barrière culturelle. Mais en fait, avec cette scène de les toucher, tout le monde réagit de la même façon, et les alémaniques et les romans, en fait. Donc, peut-être que c'est un point commun.
Donc vous attendez justement que le spectateur, en se distanciant, prenne conscience de tous ces problèmes.
Oui, ben je crois qu'on est tous conscients de toute façon de ces problèmes, mais c'est voilà, de se dire qu'on peut les aborder autrement et qu'on peut justement réfléchir sans avoir peur, hein, sans se dire je prends la tête, vraiment j'ai déjà ma vie, ma journée et tout ça, c'est trop lourd, donc je vais pas regarder le téléjournal, je vais pas aller voir une pièce de théâtre qui me parle encore de ça et tout ça. Voilà, on peut aller voir une pièce de théâtre qui parle de tout ça et on peut sortir avec un sourire, même si on fait des constats sur des choses qui sont pas très optimistes.
Alors pour reprendre votre titre, la première partie de la journée de travail serait donc la version pessimistique. Et le soir à 20h30 à Saint-Gervais, on rentre dans la formule optimiste.
Voilà, ouais, tout à fait, ça pourrait être ça. Ouais.
Alors Oscar Gomez, matin, c'est jusqu'à dimanche soir. C'est à 20h30.
À 20h30, donc aujourd'hui mercredi, jeudi à 19h, vendredi, samedi 20h30 et dimanche à 18h.
Et disons simplement aux auditeurs qu'ils devront gagner leur place physiquement.
Oui.
Et même la défendre.
C'est ça, ouais.